Ça s'appelle Au détour d'une rencontre. C'est une émission qui vous propose de partir à la rencontre d'une personne, d'un projet, d'un métier, d'un engagement, d'une réalité de vie. C'est une émission qui parle des autres, de soi, qui questionne ce que nous sommes, ce qui est, ce que nous faisons, dans quel but.
Je m'appelle Alain, je suis improvisateur et puis j'ai 33 ans. Alors pour moi l'impro c'est un art du direct, c'est un art collectif où on va créer quelque chose ensemble, une scène, ce sera pas forcément une histoire, ce sera peut-être un bout de quelque chose et on sait d'où on part mais on sait pas où on va, c'est comme si on marchait à reculons. On est là, on est ensemble et il y a quelque chose de magique qui se passe où finalement on a créé un truc complètement nouveau qui n'est jamais arrivé, qui n'arrivera plus jamais. C'est ça, moi je vois ça vraiment comme un comme une espèce de puzzle ou comme si on devait peindre une toile mais on sait pas trop à quoi ça va ressembler et on est tous avec des pinceaux. Et comme si les pinceaux faisaient 25 mètres de long, quoi. C'est comme ça, t'es à 25 mètres, t'es tout comme ça sur une petite toile, à essayer de construire un truc. Et je trouve ça cool. Alors ça va peut-être pas ressembler à quelque chose qui existe, ça se trouve ça va être un peu loupé par rapport au public, mais on aura construit un truc tous ensemble. Et ça c'est chouette. Et c'est pas tant la réussite qui compte, c'est aussi l'échec, comment je pourrais dire ça, l'échec tonique. Ça veut rien dire, mais une espèce de perdre, mais avec panache. Petite parenthèse, je peux faire des parenthèses? J'ai le droit de parenthèse.
T'as droit aux parenthèses.
J'ai le droit à une parenthèse, plusieurs ou c'est infini?
D'accord.
Tu peux faire des parenthèses.
Alors fais gaffe parce que moi je fais des parenthèses dans les parenthèses.
Vas-y,
des crochets.
On va visiter les abysses.
On y va, première parenthèse. Un des clichés d'impro, c'est que ça doit être drôle tout le temps. En réalité, il y a des formats et des scènes qui prêtent vraiment à l'émotion. On peut réfléchir à des mises en scène et des spectacles propices à la montée d'émotions. Et justement, on est là pour aller chercher, pour aller cueillir le public là où on veut, quoi. Et donc ne pas s'interdire ce genre de choses. Les émotions, il y en a une palette d'émotions gigantesque entre la colère, la tristesse, le dégoût, on a plein de choses. Et parfois, on se surprend soi-même à jouer un personnage absolument détestable et dégueulasse qui va provoquer quelque chose chez les gens. Donc, je pense que limiter l'impro à quelque chose de rigolo, la galéjade, la grosse blague, tu vois, je pense que c'est un peu limitant.
Comment apprend-on à devenir un comédien en improvisation?
Je dirais en venant aux entraînements, déjà. y a plein de choses qui jouent. Il y a le lâcher prise, la confiance en les autres aussi. Parce que si t'as confiance en tes partenaires de jeu, t'as plus tendance à te lâcher. C'est de l'entraînement, c'est aller voir de l'impro aussi, pour voir un peu ce qui se fait. C'est apprendre des techniques, l'acceptation par exemple, accepter ce qu'on dit, éviter de refuser systématiquement. Et je dirais faire éteindre la petite voix qui te fait réfléchir trop. C'est-à-dire, t'es sur le banc, on voit ça souvent chez les débutants, ils sont sur le banc et ils sont comme paralysés, parce qu'ils cherchent absolument la suite à donner et il va se passer ça puis ça et le temps qu'ils se disent ça, en fait la scène elle est déjà avancée, on est passé de la piscine municipale au stade municipal, donc il y a déjà un cheminement qui a été fait. C'est faire éteindre un peu sa voix intérieure qui te dit t'es nul, tu vas pas y arriver, c'est une idée de merde. Si t'as confiance en tes partenaires, tu vas y aller. Alors, il y a des idées évidemment qui sont plus merdiques que d'autres, mais tu vas y aller et tes partenaires, ils vont faire en sorte de la magnifier. C'est ça, c'est aussi être perméable, être ouvert aux propositions des autres, des propositions verbales et physiques. Et je dirais jouer, mais littéralement, parce qu'il y a jouer en spectacle, mais pour moi c'est un jeu, c'est vraiment un jeu. Je crois que c'est ça aussi l'impro, c'est essayer de retrouver un état, l'état de quand on est gosse, tu sais, où tu fais des trucs, tu fais des histoires de ouf, t'es comme ça avec deux bouts de bois et ça y est, c'est des vaisseaux spatiaux, t'es dans la boue, tu fais ouais attention, et t'en as rien à foutre qu'il y ait quelqu'un qui te regarde, et t'en as rien à foutre que tu sois dans un parc, t'es comme ça, t'es à fond, et t'as un enfant qui vient jouer avec toi, enfin je sais pas, t'as déjà regardé les enfants jouer, mais c'est exactement ça, t'as un gosse qui vient jouer avec lui, et ben c'est comme s'ils se connaissaient depuis un bail, et puis hop, et ça part, et il propose un truc, ouais, en fait c'est ça, c'est redevenir des gosses et jouer au sens littéral. Pour moi c'est ça, c'est un jeu, c'est une fête, et une fête qu'on a envie de partager quoi.
Je montre pas mon coin à champignon à tout le monde. Bah ça alors, c'est très sexy. Ah. Alors après cela c'est les petits, les gentils, les comestibles, machin, la poêle, un peu de beurre, un peu de sel, fines herbes, machin. Mais il y a les autres. Ah, elles nous ont repérées.
Moi, j'ai pas envie de finir en omelette. Ouais, bah,
ouais, non plus, hein.
Eh bien, je m'appelle Sandrine, et ça fait un peu plus de 16 ans que je fais du théâtre d'impro, et bien 20, 30 ans que je fais du théâtre. Ouh, ça commence à faire un moment. J'ai commencé par... du théâtre classique. J'ai découvert le théâtre au collège, précisément en 6e, et par la technique. Je m'en suis rappelé il n'y a pas très longtemps. Ça m'a fait sourire et un peu ému, parce que je suis également à l'Entonnoir Théâtre, où je suis leur technicienne depuis quelques années maintenant. Et donc j'ai commencé par le théâtre classique jusqu'au lycée. Et j'ai eu un temps de pause, effectivement, à la fac. Et c'est là que j'ai découvert les matchs d'improvisation. Et moi, le théâtre, ça me manquait. Ça, c'est viscéral. C'est d'être quelqu'un d'autre sur scène. Je suis quelqu'un de timide à la base. Mais on a tous ce côté un peu exhibitionniste, malgré tout, même si on est timide. C'est assez incroyable de se retrouver là-dessus. On a besoin. C'est besoin d'aller sur scène et de raconter quelque chose, peu importe quoi, mais d'aller sur scène. Et en fait, en voyant ce match d'improvisation de la libido, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je vois pas comment, parce que j'ai zéro répartie. Et qu'en termes d'imagination, ouais, un petit peu quand même, mais bon... Zéro réparti, quoi. Et j'ai mis un peu de temps et j'ai fini par appeler. Et c'est parti.
Ce que tu décris, finalement, c'est pas l'improvisateur très sûr de lui, avec un ego assez important, et puis l'envie absolue de vouloir s'exposer et montrer qu'il est ou qu'elle est le meilleur.
Alors, on va pas se mentir, il existe certaines personnes dans l'univers, comme ça, dans l'univers de l'improvisation, mais majoritairement, on est plutôt des personnes à aimer déconner sur scène, quoi. À aimer raconter des histoires. Et l'ego ne permet pas de raconter des histoires ensemble. Parce que ça peut capoter, ça ne fait pas avancer l'histoire. C'est des gens qui vont constamment chercher à amener la lumière sur eux, sur elles, faire rire le public. Et ça ne rejoint absolument pas les valeurs de l'improvisation, de partage et d'écoute, en fait. Donc effectivement... J'avoue que c'est ça aussi qui me plaît, c'est qu'on se on reste plutôt des personnes humbles, parce qu'on sait très bien que c'est en équipe que ça se fait. Et ça se voit aussi dans l'organisation des événements. Un match d'improvisation, eh ben, c'est une date dans une salle où on accueille du public, certes, mais avant ça, il faut vraiment prendre le temps d'organiser, de contacter les salles, de trouver des bénévoles, de s'occuper de la communication. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est beau aussi de voir que chacun a fond de ses capacités et de ses compétences. Donc c'est là aussi où on se découvre aussi les uns et les autres. Donne de son temps et s'investit dans l'association. Et ça, c'est pas possible quand on a un ego démesuré. S'il y a que moi-je, les libidons, on va très vite faire remarquer à la personne que c'est pas possible. Association, on veut dire s'associer. C'est ensemble, sinon rien.
On imagine qu'il faut énormément d'imagination pour être improvisateur ou improvisatrice.
De l'imagination, ça c'est sûr, mais surtout s'autoriser à la laisser venir. On a l'impression de ne pas avoir d'imagination, mais en fait si, c'est là, ça se travaille. C'est juste, c'est facile à dire bien évidemment, mais d'observer comment on peut se comporter, comment on est avec les autres. Les gens dans la rue, des fois on a des personnages assez incroyables.
Ça doit être dur, conducteur de bus, hein. Ah ouais, parce que d'habitude, moi je m'arrête à l'arrêt 16, mais là, bon, je vais aller au 14, parce que le 14, c'est vrai que c'est plus loin du centre commercial. Alors moi, d'habitude, je vais au centre commercial tout seul, mais là, c'est parce que... Ah, pardon, allez-y, prenez votre ticket. Non, parce que je disais que là, par exemple, je vais jouer au 14.
Mais quelles sont les bases pour que ça fonctionne?
L'écoute. Clairement, être à l'écoute de l'autre et la répartie. Comme je disais, l'imagination... Elle est là, il faut juste lui ouvrir la porte. C'est pareil pour la répartie, ça se travaille. C'est effectivement ce qu'on fait de toute façon en entraînement. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir après le spectacle. Oh, c'est incroyable ce que vous faites, je ne pourrais jamais le faire. Mais en fait, nous, à la base, quand on allait voir les spectacles d'improvisation avant aussi, on se disait ça. Mais on a passé la porte, on a appris les bases, d'écoute, de partage, etc. Et au fur et à mesure, notre imaginaire s'est libéré, s'est enrichi, ainsi que le lâcher prise et la répartie.
Et on va marcher longtemps comme ça, sans but.
Peux-tu me décrire comment va se passer un entraînement typique ?
Alors un entraînement, généralement on se retrouve et on marche dans l'espace. C'est un peu le truc de théâtre. C'est le prof de théâtre qui est là, alors vous allez enlever vos chaussures, vous allez marcher dans l'espace pour sentir la pièce. Non, en fait, typiquement, par exemple à la libido, on se retrouve. Sachant qu'on est nombreux, il y a généralement plusieurs entraînements sur des thématiques différentes. Sachant qu'en ce moment, on joue beaucoup, il y a beaucoup de formats. S'il y a un format qui te plaît plus, tu vas dans un entraînement par rapport à ce format. Tu y vas. Et puis, ça commence par un échauffement, un réveil physique. Un réveil dédié au théâtre. Parce qu'en fait, l'entraînement, il a lieu à 20h. Début 20h15. Donc, généralement, tu as quand même la journée de boulot dans les pattes. Et tu as besoin d'une transition physique et mentale pour arriver dans le cours. Donc voilà, ça peut être physique, ça peut être de la relaxation, ça peut être au contraire un truc un peu plus vénère. Après, tu as une deuxième phase où ça va être la déconnexion mentale et la connexion aux autres. Le fait de pouvoir ouvrir son esprit à la réactivité. Donc tu as deux, trois trucs comme ça. Les balles de couleurs, ça c'est un grand classique. Ou le fait de faire des associations de mots, des associations d'idées. Et ensuite, t'expliques la thématique de l'entraînement. Des petits exercices, des scènes à deux ou trois. Ensuite, tu continues le travail sur l'exercice et puis après, des scènes plus longues et tu vois comment le concept ou comment le truc de ton entraînement a pris.
Il y a plusieurs formats en théâtre d'improvisation. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus ?
Oui, alors il y a le match, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un, c'est pas, on dit match d'improvisation parce que ça vient du match de hockey du Québec. Enfin, c'est un peu ce décorum-là. Il y a une patinoire, il y a un arbitre et il y a deux équipes qui se font face, généralement de 5, ça peut être 4, ça peut être 6. Et ils vont succéder, enfin ils vont faire des improvisations ensemble et à la fin de chaque improvisation, le public va voter pour l'une ou l'autre des équipes. Et à la fin, on a un gagnant ou un gagnant, enfin une équipe qui va gagner. Alors bon, il y a des ligues d'improvisation assez sérieuses. Nous, le match qu'on fait, notamment à la Libido, c'est plus du match, c'est du détente, c'est un simulacre de match. On joue à jouer un match. On fait comme si. Parce qu'on ne veut pas de compétition dans ce format-là, même si de l'extérieur, il y a une sorte de compétition, mais c'est une compétition bienveillante. On est au service du jeu et on est là surtout pour faire... c'est un spectacle en fait, c'est un spectacle total. Le catch, c'est 2 contre 2, généralement c'est dans la même troupe. Et c'est sur un ring de catch. Il y a un arbitre qui donne des thèmes et donc on a deux équipes qui ont chacun un thème particulier, qui vont s'habiller d'une certaine manière et qui vont venir faire des improvisations. Et bon, là, les scores, c'est moins formalisé qu'au match parce que c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu l'arbitre qui décide. Donc c'est encore moins propice à la compète que le match. Donc c'est très... Ça aussi, c'est un format de plusieurs improvisations assez courtes qui se suivent. Et évidemment, les improvisateurs ne connaissent pas la teneur des improvisations. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Ils ne connaissent pas non plus les thèmes que amenait le MC ou l'arbitre, quoi. Donc il y a le match, catch. On a des cabarets. Donc ça, c'est tout simple. C'est un peu comme on va faire ce soir. C'est-à-dire on va se retrouver à un endroit avec une personne de grand talent qui va présenter, avec un certain nombre de thèmes, et puis les improvisateurs, ils sont 5 de la même troupe, ils vont improviser une série de scènes courtes. Voilà, ça dure 1 heure généralement. Et puis après, on a des formats différents, ça peut être par exemple des longues formes. Ce qu'on appelle des longues formes, c'est généralement une pièce improvisée qui va durer aux alentours d'une heure. Avec des comédiens, ça peut varier, il y a des longues formes avec 5, 6 comédiens, 7, 8, parfois 2. Et à partir d'une situation qui demande au public, ils vont improviser toute une pièce ou tout un environnement avec tout un tas de cadres possibles. Ça peut être un huis clos, c'est-à-dire dans une même pièce, ça peut être dans un appartement, enfin voilà, il y a plein de choses possibles. J'aime bien le match, mais c'est vrai que j'aime bien les longues formes par exemple. Là, on est vraiment sur scène à construire une histoire entière. Ça te fait travailler un peu la mémoire, tout ça. Il y a un espèce de truc mystique qui se passe aussi pour des formats avec moins de joueurs. C'est-à-dire quand t'es 3, 4 et que tu dois tenir 1 heure, voire 2, il y a une complicité qui joue. Il y a vraiment, tu vas chercher l'autre. T'attends la réaction et t'attends la réponse. Et c'est sa réponse en fait qui va te nourrir. Le jeu généreux, en fait, c'est ça que j'aime bien. Le jeu généreux en impro, peu importe le format.
Tu es encore arrivé en retard.
Je vais pas papa.
Ah, papa est vivant. C'est toi qui veux le
faire. Est-ce que l'activité de théâtre improvisation peut servir de vecteur dans un débat, dans une façon d'aborder un sujet? Et finalement, d'ouvrir la discussion entre les personnes qui vont venir assister à cette représentation.
Complètement. Comme je disais, ça permet d'aborder certaines thématiques, alors pas de façon légère, hein, mais de manière plus abordable. Comment dire ? Ça permet de provoquer un peu la discussion. On peut partir sur une thématique, comme dernièrement, on a pu participer à un spectacle-conférence avec l'association du Gros. Et en fait, donc l'idée, c'était de pouvoir aborder cette façon de... Enfin, façon. L'alimentation d'une autre façon. Et eux, ce qu'ils préconisent effectivement, c'est de reprendre du plaisir dans le fait de manger. Et nous, ce qu'on a pu faire avec un Proception justement, c'était de proposer des scénettes complètement en décalé, mais qui permettaient d'aborder une réflexion, et des questionnements. ça permet de faire réfléchir, effectivement. C'est pas de pointer du doigt, hein. C'est vraiment bien faire remonter une problématique. Et là, justement, bah, les diététiciennes et nutritionnistes ont pu récupérer ce qui a été pointé du doigt pour pouvoir l'expliquer aux gens qui pouvaient se poser la question ou tout simplement expliquer ce qui était abordé.
L'improvisation, c'est un facilitateur social ?
Je suis assez d'accord et j'aime beaucoup ce terme. Facilitateur social, que ce soit au sein de l'association. Quand on est quelqu'un qui débarque dans une ville et qui connaît personne, ça permet de rencontrer des gens, de s'investir, même de découvrir des choses. Hein. J'ai des gens de l'association, au fur et à mesure des années dans l'association, qui se sont pas révélés. Hein. On est d'accord, c'est pas du tout... une thérapie de groupe où voilà, ça ne nous sauve pas la vie. Par contre, c'est vrai que ça peut nous aider à découvrir des parties de nous, tout simplement qu'on ne connaissait pas. On a quelqu'un qui, après avoir été militaire pendant plusieurs années, a terminé son contrat et qui ne savait pas trop quoi faire de sa vie. En fait, en venant dans l'association, il a découvert la technique et est devenu régisseur. Et moi, je trouve ça génial de partir de... Bah, tiens, je vais passer un temps et découvrir une discipline à s'y être éclaté. Et en plus, avoir découvert sa deuxième vie professionnelle et il s'éclate là-dedans. C'est aussi un facilitateur social avec le public. Parce que l'air de rien, c'est pas anodin que de se poster là devant des gens. C'est... partager quelque chose, et puis même après, quand le public vient nous voir, c'est rigolo, parce que cette sensation d'être vraiment pris pour des artistes, alors que nous, on est juste des gens à partager une passion sur scène, mais aussi avec le public, et on se retrouve à discuter avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, qu'on ne verra peut-être plus jamais, et c'est chouette de partager ce moment avec eux, pas seulement la discussion, mais du spectacle, où on sent vraiment quelque chose qui se passe quand on les entend rire ou quand on les entend un peu émus ou des petites réflexions sur ce qui se passe sur scène. Et ça amène aussi au spectacle avec des thématiques un peu plus, entre guillemets, sérieuses, où c'est facilitateur d'échanges sur les problématiques et je trouve ça vraiment, au-delà de m'éclater, je trouve ça vraiment intéressant de permettre de libérer la parole autrement, quoi.
Donc, tu as parlé de la libido, tu as parlé de la perception.
Eh bien, oui, effectivement. À la base, il y a l'association, un peu la maison mère, qui s'appelle Obscure by Cloud, largement inspirée de Pink Floyd, Obscure by Cloud. Et l'article premier, effectivement, de cette association, Obscure by Cloud, c'est promouvoir le théâtre sous toutes ses formes. C'est pour ça qu'au fur et à mesure des années, des sections se sont créées. D'abord la Libido, la Ligue d'improvisation de Brest et de l'île d'Ouessant. L'Entonnoir Théâtre, où ils sont revenus à du théâtre un peu plus classique, punk, mais classique. C'était les deux premières à la base, et puis plusieurs sections se sont greffées quelques années après. Improception, donc là c'est un peu une bande de potes qui faisaient du théâtre depuis un moment ensemble, qui ont eu envie de monter leur structure, et voilà, ils ont pu se rattacher comme ça à Obscure by Cloud. Il y a la Libado, donc la section pour les ados de 14 à 17 ans, ils sont géniaux et tellement frais. Il y a la compagnie de la Matrone, eux ils font plutôt là, bah voilà, justement du one man show. Et dernièrement Douce et Chard, qui font aussi du théâtre improvisé, mais plus sur des concepts de spectacles un peu semi-longs, voilà, de 45 minutes, 1 heure, où on tient un personnage pendant 1 heure, ce qui n'est pas rien. Mais il y a d'autres structures sur Brest, bien évidemment.
Et ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, impro.
Hé, la taille de ses côtes, tombe de Mars, elle est très différente de celle de la Lune. Regardez. Cours, pourquoi? Mais oui. a des très grosses gouttes. Alors que la lune est près du soleil, elle n'a pas beaucoup de problèmes. Alors forcément, ces gouttes sont toutes petites. Mais allons voir sur le terrain.
Vous êtes ici sur la réserve de gouttes la plus grande de France. C'est ici qu'on crée des gouttes. C'est gigantesque. Suivez-moi par ici. Et attention, ne mettez pas les pieds n'importe où. Vous risquez de vous faire gronder par le gardien de la goutte. Et hop, hop.